Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Erwan Lestrohan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Ce soir, Marine Le Pen doit trouver le temps très long. Le compte à rebours final s'égrène jusqu'à demain matin pour elle, jusqu'à ce que les juges fassent connaître leur sentence depuis que le parquet a réclamé son inéligibilité immédiate pour 5 ans dans le procès des assistants parlementaires de son parti payés par l'Europe. Pareille décision l'empêcherait de concourir à la présidentielle de 2027. La prévenue, qui pourrait aussi se voir infliger 300 000 euros d'amende au terme d'un procès long de 2 mois, c'était à l'automne, jure ne pas y penser du tout. Il n'empêche, l'ancienne présidente du RN joue son avenir politique. Ce qui fait bien évidemment réagir aujourd'hui sur les plateaux de télévision et les studios de radio. Ex-député Front National au Parlement européen, également mis en cause dans cette affaire, Bruno Gollnisch sur France 2 ce matin.
Je ne spécule pas sur une hypothèse qui, à mon avis, si elle se réalisait, serait une très grave violation de nos institutions et une très grave atteinte à la démocratie.
Clément Beaune est un ancien ministre d'Emmanuel Macron. Le nouveau haut-commissaire au plan qui a remplacé François Bayrou à ce poste était dans la matinale de France Info.
Je ne suis pas un fanatique de l'inéligibilité, parce que je considère que l'inéligibilité, être élu ou pas, pouvoir se présenter ou pas, c'est les citoyens, c'est le suffrage universel qui doit en décider.
Toujours dans le camp présidentiel, Aurore Berger, qui est membre du gouvernement.
C'est une décision qui sera d'abord une décision judiciaire. Elle aura des conséquences politiques, mais ce n'est pas une décision politique, c'est une décision de justice. Évidemment, ça aura des répercussions qui sont des répercussions politiques. Moi, demain, je ne serai ni satisfaite ni choquée. Je prendrai acte d'une décision de justice qui aura été rendue dans le cas vraisemblablement de détournement d'argent public, c'est-à-dire de l'argent des Français et des Européens, et de savoir si cet argent a été utilisé comme il devait être utilisé ou si cet argent a été détourné à des fins politiques.
L'avis maintenant du socialiste Jérôme Gage, c'était sur Europe 1.
Moi, je me méfie à chaque fois qu'on jette une suspicion sur une décision de justice et sur la manière dont elle va être prononcée. Cette loi, elle a été votée en 2016, rappelez-vous, au lendemain de l'affaire Cahuzac. Elle a été confortée, confirmée après l'élection d'Emmanuel Macron sur la loi sur la moralisation de la vie publique. Donc, il y a une injonction contradictoire d'un côté à demander à ce qu'il y ait une forme d'exemplarité des responsables politiques, et moi, j'y souscris pleinement. Qu'on débatte de l'efficacité de la loi, de sa pertinence, de son ciblage, faisons-le, mais à tête reposée. Et si demain, des majorités parlementaires estiment que la loi est allée trop loin dans les peines d'inéligibilité, mais contester en chemin des lois qui ont été votées, ça, c'est déjà fragiliser un élément essentiel de l'état de droit.
Encore un commentaire, celui de Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur. Sur RTL, ce midi, il revenait sur le fait que la peine dont on parle aujourd'hui date il y a 9 ans.
Cette loi, Sapin 2, a été votée en 2016. Marine Le Pen ne s'y est pas opposée. C'est cette loi qui donne aux juges le pouvoir de faire en sorte que, lorsqu'il y a eu une infraction, que celle-ci est condamnée, eh bien, qu'il y ait inéligibilité, y compris tout de suite. Le deuxième point, c'est que moi-même, donc cette fois-ci que simple citoyen. Je regarde évidemment tout ça. Et je vois qu'il y a un nombre très important de nos concitoyens français qui se retrouvent dans les propos et le combat de Marine Le Pen. Et personnellement, je serais très ennuyé. Et le mot est faible. Si jamais elle ne pouvait pas se présenter pour les représenter.
Erwan Lestrohan, directeur conseil donc à l'Institut de sondage Odoxa. Avant-hier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur l'avenir politique d'un élu de Mayotte en validant son inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui peut faire craindre le pire à Marine Le Pen, sauf qu'il s'agit d'un élu municipal. Ça, c'est important. Il y a une différence. Il faudra faire très attention demain à ce qui sera annoncé par les juges.
Oui, si Marine Le Pen n'était pas privée de la perspective d'avoir un mandat national, le fait qu'elle soit privée d'un mandat comme celui de député, par exemple, c'est vrai que ça la priverait d'une présence à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été autant qu'aujourd'hui le théâtre de la vie politique française. Ceci dit, quand on regarde la situation de ses rivaux à l'élection présidentielle de 2027, que ce soit Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, ils préparent la présidentielle. Donc ce ne serait pas une fin de parcours pour Marine Le Pen.
Au-delà, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y aura plusieurs niveaux de lecture de cette sentence prononcée contre Marine Le Pen demain. Si les magistrats du tribunal correctionnel la condamnent, la députée du Pas-de-Calais a assuré qu'elle défendra à nouveau son innocence, ça veut dire qu'elle interjeterait appel. Est-ce que c'est opportun, si aucune peine d'inéligibilité n'est prononcée, ou si l'empêchement de se présenter aux élections est inférieur à 2 ans, ce qui lui permettrait de se préparer.
Oui, alors le risque, c'est quand même de donner l'impression aux Français qu'elle est embourbée dans un feuilleton judiciaire. Il peut y avoir quand même une prime à se débarrasser assez vite de ce sparadrap pour avancer vers ces prochaines étapes. Donc il y aura une équation à résoudre entre un parfum de culpabilité qui pourrait rester présent et aussi le fait de ne pas être embourbé dans un feuilleton.
Autre cas de figure, une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate. C'est ce qu'a réclamé le parquet pour les 5 prochaines années. Alors là, ça ouvrirait un abysse d'incertitude parce que pas possible pour elle d'être candidate à l'Élysée dans 2 ans.
Oui, et là on retrouve ce que disait François Bayrou, hein, que ça introduirait un biais pour la vie démocratique nationale. C'est vrai que Marine Le Pen, c'est la finaliste des 2 dernières élections présidentielles. C'est pas n'importe quelle candidate. Ceci dit, pour les sympathisants RN et pour la vie politique française, il y a quand même un plan B à une candidature Le Pen et un plan B très consistant en la personne de Jordan Bardella. On avait sondé les Français au moment du réquisitoire du parquet à l'issue de la phase d'instruction de cette affaire concernant Marine Le Pen. Finalement, seule une minorité de Français, mais aussi de sympathisants RN, considéraient qu'une inéligibilité de Marine Le Pen serait un handicap pour le Rassemblement National. Pour eux, Jordan Bardella peut être également un bon candidat à la présidentielle, et d'autant plus qu'il y a, en petite musique, à l'esprit des sympathisants du RN, l'idée que présenter Jordan Bardella à la présidentielle, c'est aussi rompre avec le nom de Le Pen, qui, pour certains, est un peu l'incarnation du plafond de verre du RN et l'explication du fait que le parti n'arrive pas à passer le stade du deuxième tour. Donc ce serait un tsunami politique pour la France, évidemment, parce que c'est la finaliste des 2 dernières élections présidentielles et elle est la candidate naturelle de son mouvement pour le représenter en 2027. Mais pour autant, il y a quand même un plan de remplacement avec une personnalité qui a une structure d'image très positive dans l'opinion.
À savoir Jordan Bardella. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce moment-là à une inversion du scénario qui était déjà écrit, qui voulait que Le Pen aille à l'Élysée, Bardella à Matignon? Du coup, ça pourrait être l'inverse. Et on pourrait avoir un Premier ministre, Marine Le Pen, parce qu'on n'est pas obligé d'être un élu de la République pour accéder
à
Matignon.
Tout à fait. Elle ne passerait pas par les urnes pour arriver à Matignon. Ça supposerait que Jordan Bardella soit élu président de la République, donc ce qui reste quand même à effectuer. Mais on sait que c'est un ticket qui marche bien, Bardella-Le Pen, dans un sens ou dans l'autre. Ils ont du reste des structures de popularité parfaitement superposables, c'est-à-dire qu'ils ont des codes de popularité très proches, quelles que soient les tendances politiques des répondants, leur sexe, leur âge ou leur activité professionnelle. Donc finalement, ils sont assez complémentaires, et puis ils parlent aussi bien aux Français les plus âgés qu'aux Français les plus jeunes. Jordan Bardella, c'est aussi une régénération du Rassemblement National. Donc ça pourrait être un ticket performant, effectivement.
On entendait Thierry Breton exprimer sa gêne si Marine Le Pen est privée d'élection. Est-ce qu'il y a un risque que le prononcé d'une inéligibilité aggrave le fossé entre les Français et les institutions, au-delà des 11 millions qui ont voté pour elle à la dernière présidentielle?
Mais pas nécessairement, parce qu'on avait sondé les Français sur ce sujet, justement, sur une possible condamnation de Marine Le Pen, et finalement plus de la moitié d'entre eux considèrent que dans cette affaire, elle est jugée comme n'importe quel justiciable et elle n'est pas jugée plus durement pour des raisons politiques. Ça, c'est le point important. C'est ce qu'on observait aussi quand on faisait ces sondages. Dans le cadre des affaires qui concernaient Nicolas Sarkozy, dans le cadre de l'affaire Fillon, les Français ont une forte confiance dans la justice, n'ont pas le sentiment qu'elle est aux ordres quand une personnalité politique est mise en examen. Donc on retrouve ce cas de figure pour Marine Le Pen, même si, évidemment, les sympathisants du Rassemblement National sont vent debout contre l'action judiciaire. Ils sont 90% à considérer à l'inverse des Français, qu'elle est jugée plus durement pour des raisons politiques.
Alors, comme un miroir à ce qui se passe à l'extrême droite, ce qui se passe à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon va ressortir un dossier présentant des similarités avec cette affaire explosive qui implique Marine Le Pen. Aurélien d'Auvernois, du service politique du RFI, le quotidien Libération révèle un rapport de l'Office européen de lutte antifraude dont les conclusions notent des manquements, des irrégularités dans la gestion de ses assistants quand le leader insoumis était eurodéputé.
Oui, et ce rapport pose en particulier la question du rôle des assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon alors qu'il siégeait au Parlement européen entre 2009 et 2017. Si la réalité de leur travail ne fait pas de doute, contrairement au dossier du Rassemblement national, la traçabilité de leur activité pose problème selon l'OLAF, en particulier pour deux de ses assistants sur la vingtaine qu'a employé le leader insoumis au fil des années. Au total, le coût de ces manquements pourrait s'élever à 500 000 euros selon le rapport. Interrogé par l'OLAF en 2020, Jean-Luc Mélenchon a admis qu'il lui était matériellement impossible de justifier le travail de ses assistants au quotidien et expliqué qu'il ne gérait de toute façon pas directement son enveloppe de frais de mandat.
Et puis le parti, la France Insoumise affiche son étonnement.
Pourquoi ce rapport qui date de 2021 est-il révélé cette semaine à quelques jours du verdict du procès Le Pen, fait-on mine de s'interroger dans les rangs insoumis. Un timing qui pose question selon une source dans le parti qui déplore que les personnes mises en cause n'ont pas été contactées par Libération. Le quotidien accusé de servir l'agenda du Rassemblement national. L'évocation du dossier Mélenchon pourrait permettre de relativiser le verdict du procès de Marine Le Pen selon des insoumis en noyant les pratiques du mouvement d'extrême droite dans un océan d'actions plus ou moins similaires des autres partis français. LFI qui rappelle que la procédure a d'ailleurs été déclenchée à la suite d'un signalement en 2017 de l'eurodéputée RN Sophie Montel.
Et puis Aurélien, à gauche, il y a un certain malaise qui règne sur ce sujet.
En effet, un eurodéputé socialiste admet que le rôle des attachés parlementaires, notamment ceux chargés de la presse, est toujours un peu flou, même si pour lui, le dossier explique peut-être pourquoi Jean-Luc Mélenchon a toujours été très prudent concernant le procès intenté à Marine Le Pen. Son collègue écologiste, David Cormand, estime que les deux cas ne sont pas comparables et que surtout, aucune poursuite n'est formellement engagée alors que les faits reprochés sont anciens. Il faut que la justice fasse son travail, poursuit-il, tout en s'étonnant lui aussi du moment de la révélation de ce rapport.
Erwan Lestrohan, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Justement, que disent les sondages concernant Jean-Luc Mélenchon?
Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans cette affaire, il ne bénéficierait pas de la bienveillance de l'opinion. Jean-Luc Mélenchon, c'est la personnalité politique qui est en tête de la cote de rejet de notre baromètre politique. 70% des Français disent qu'ils rejettent Jean-Luc Mélenchon. C'est par exemple 20 points de plus que Marine Le Pen. Donc il est vraiment très rejeté. Et puis, cette condamnation, enfin en tout cas cette affaire judiciaire, ça vient en contradiction avec ses engagements d'exemplarité dans la pratique politique et ces engagements qui sont aussi les engagements de la France insoumise. Donc ce serait aussi ce télescopage entre une exigence de bonne pratique politique et finalement des pratiques aussi décriées que celles du Rassemblement national qui pourraient être délétères pour son image, peut-être même au sein même de son mouvement qui est encore un espace sur lequel il est plébiscité.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Jordan Bardella était jeudi en Israël, devant des centaines de personnes réunies à Jérusalem pour une conférence sur l'antisémitisme organisée par le gouvernement israélien. Le président du RN a déclaré « La menace islamiste, elle est votre ennemi, tout autant qu'elle constitue notre péril le plus existentiel ». Au-delà de ces propos, cette réunion a suscité des débats dans la communauté juive et en France, car elle associait des figures de mouvements considérés comme liées à des idées antisémites à des acteurs de longue date de lutte contre ces idées, justement. Sur Radio J, tout à l'heure, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a déclaré « Considérer que l'antisémitisme n'est qu'une question de passé pour le RN, c'est une erreur ». Avant cela, Aurore Berger, membre du gouvernement, déclarait ceci sur BFM TV.
Ce parti, par l'histoire qui est la sienne, par les candidats qui ont été investis il y a quelques semaines à peine, montre qu'il y a encore évidemment des relents qui sont des relents antisémites. Donc moi je pense qu'il ne faut pas prendre le risque de les avoir au pouvoir pour vérifier leur sincérité. Ils essayent de gommer au maximum ce qu'ils ont été, et je pense sincèrement ce qu'ils sont pour un certain nombre d'entre eux encore, preuve encore, les candidats qui ont été investis. Candidats investis, c'est pas du fantasme, ça sort pas de ma petite tête. C'est qu'à un moment, il y a des gens qui ont eu l'étiquette du Rassemblement National pour se présenter devant les Français et qui tenaient des propos négationnistes.
Et puis ce que dit Jérôme Gage, député du Parti Socialiste dans l'Essonne.
Je n'oublie pas que le Rassemblement national est l'héritier du Front national qui s'est construit sur un fond antisémite notoire. Joseph Martin, candidat du Rassemblement national en 2024, juif qui parle, bouche qui ment. Frédéric Bocaliti, candidat RN et élu député, l'antisémitisme, il est partout. Dans le milieu rural comme dans le milieu urbain, chez les pauvres comme chez les très aisés, à gauche comme à droite et au centre. J'ai croisé des antisémites sur tous les bancs politiques. Une partie de la gauche s'est fourvoyée à nouveau dans l'antisémitisme. Il y a des positions au relent antisémite qui sont portées par des responsables de la France insoumise.
Justement, ce que dit Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations.
La France insoumise joue matin, midi et soir avec l'antisémitisme. Il donne un permis aux Français de pouvoir être antisémites. Jean-Luc Mélenchon, c'est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui, en fait. Jean-Luc Mélenchon, c'est les petites phrases, c'est les petites blagues nauséabondes. Quand vous prenez des propos comme celui qu'il a tenu il y a peu de temps, en disant on va leur couper les cheveux en quatre pour en faire des édredons. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme cultivé. Ça peut pas être autre chose qu'une référence directe à Auschwitz.
C'était lors d'une réunion publique à Brest.
Où on rasait les cheveux pour ensuite les commercialiser et en faire des matelas. Ça, c'est une référence directe.
Erwan Lestrohan, finalement, tout le monde et personne ne serait antisémite en France.
Oui, alors, bon, ce qu'on voyait dans les sondages, c'est qu'il y a quand même une progression, enfin des mouvements dans la perception des différents partis politiques. En novembre 2023, donc un mois après les attentats terroristes du Hamas, environ la moitié des Français jugeaient que le RN était légitime pour participer à la manifestation contre l'antisémitisme à un niveau supérieur de 3 points à la légitimité accordée à la France insoumise. Donc ça montre quand même qu'il y a une progression de l'opinion sur ces sujets-là. En ce qui concerne l'antisémitisme, aujourd'hui, 8 Français sur 10, c'est largement majoritaire, pensent que l'antisémitisme est un phénomène répandu en France. Ils sont 7 sur 10 à considérer que ça a augmenté. C'est vrai que sans trancher la question de la posture du RN et de LFI sur ce sujet, ce qu'on peut quand même noter dans la situation actuelle, c'est que le sentiment qui domine dans l'opinion, c'est que le regain d'antisémitisme, la progression de l'antisémitisme, ça vient de la diabolisation des positions d'Israël dans le conflit israélo-palestinien, et que cette diabolisation d'Israël, elle est rattachée aux prises de parole de la France insoumise. Donc, dans le contexte actuel, évidemment qu'il y a un regain de l'antisémitisme, que les positions les plus critiques à l'égard d'Israël, elles sont identifiées par les Français comme émanant de la France insoumise. Maintenant, ça ne dit pas qu'un parti ou un autre défend plus des positions antisémites.
Plusieurs entreprises françaises ont reçu un courrier de l'ambassade des États-Unis les interrogeant sur l'existence de programmes internes de lutte contre les discriminations, ce qui pourrait les empêcher de travailler avec l'État américain. Les ministères français de l'économie et du commerce disent que c'est inadmissible. Et il y a ce que dit également le patron des patrons français qui réagit à cette lettre. C'était sur LCI, Patrick Martin.
C'est inadmissible parce que ça traduit une dérive du président américain lui-même qui veut signifier une emprise sur l'économie mondiale et sur les valeurs, en l'occurrence les valeurs européennes. On ne peut pas s'incliner devant cette oukase, en quelque sorte. Typiquement, en France, nous avons des règles que nous partageons infiniment sur la mixité. Et à vrai dire, on les appliquerait quand bien même elles n'existeraient pas, par exemple, pour l'inclusion des handicapés. Il est hors de question d'y renoncer.
Erwan Lestrohan, tout cela va ancrer la mauvaise opinion que les Français ont de Donald Trump, forcément.
Oui, c'est vrai que ça peut finir de consommer la rupture accélérée de l'opinion française avec les USA de Donald Trump. C'est vrai qu'il y a 8 Français sur 10 qui ont une mauvaise image de Donald Trump. Et puis, chose nouvelle aussi, mais liée à la géopolitique internationale, aujourd'hui, 2/3 des Français considèrent que les États-Unis ne sont pas un allié pour la France. Ça, c'est tout nouveau aussi dans l'opinion, mais ça va avec une accélération de la critique des États-Unis par les Français.
Et cette défiance est partagée sur l'échiquier politique ou on a plus de pro-Trump ou d'anti-Trump à gauche ou à droite ?
Alors, la défiance, on l'a vu très forte à l'égard de la politique commerciale des États-Unis après la cérémonie d'investiture de Donald Trump, avec une large part de Français qui étaient critiques, notamment sur la volonté de faire progresser les droits de douane pour les produits américains. Ceci dit, sur l'échiquier politique, les sympathisants RN sont un peu plus positifs à l'égard de Donald Trump. Ils sont autour de 40% à avoir une bonne opinion de Donald Trump. C'est 2 fois plus que la moyenne des Français, mais ça reste minoritaire dans l'opinion. Quelles que soient les préférences politiques des Français, majoritairement, ils rejettent Donald Trump.
Merci pour ces analyses, commentaires et éclairages, Erwan Lestrohan. Je rappelle que vous êtes directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Dimanche politique à retrouver sur l'appli RFI, également sur le site internet www.rfi.fr. FR.